co-dirigez l'association Musique et Spoliation aux côtés de Corinne Herschkowitz. Pascal Bernheim, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion notamment de la parution d'un livre passionnant, Commando Musique, comment les nazis ont spolié l'Europe musicale, qui vient de paraître chez Buchet-Chastel, sous l'égide notamment de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Un livre très, très dense, passionnant, de Willem de Vries. Donc un livre qui était paru déjà en anglais et en allemand, que vous avez fait traduire.
Voilà, et qui est en fait un peu l'ouvrage par lequel toute mon histoire et la relation avec la question de la spoliation des instruments de musique a commencé, et qui est le seul, l'unique ouvrage de référence qui existe sur cette question. Et donc, lorsque, avec Corinne, nous avons fondé l'association Musique et Spoliation, notre premier objectif a été de trouver un éditeur en France pour cet ouvrage.
Alors ce traducteur, Laurence Lars, il rappelle quelque chose, je vais me permettre juste de lire une phrase extraite de cette postface. Il rappelle donc la politique de recherche proactive d'ayant droit voulue en 2013 par la ministre Aurélie Filippetti, qui était à l'époque ministre de la Culture. Et il dit, il n'est fait allusion qu'aux instruments de musique que spoliés qu'une seule et unique fois. Et là, une phrase que je trouve très belle et qui justifie à elle seule votre action. Et cette publication, c'est oublier un peu vite que le Sonderstab Musik d'Herbert Gehrig, on va en parler, s'empara avec autant d'empressement et aussi peu de discernement d'instruments historiques de haute facture, tels les claviers historiques de la collection Landowska, on va en parler aussi, que de violons d'études ou de clarinettes déglinguées, sans autre valeur que celle que leur conférait dans les cœurs d'une communauté israélite blessée à mort le réconfort qu'ils pouvaient leur apporter aux heures les plus sombres de la déportation. C'est-à-dire qu'à la fois, ça résume les enjeux à la fois de ce livre, les enjeux de votre association, qui est à la fois de retrouver, de documenter des instruments qui ont été spoliés sous l'occupation, et de dire que ce n'est pas uniquement des Stradivarius, il y avait aussi des familles juives pauvres qui n'avaient souvent pour seul bien qu'un malheureux violon.
Exactement. Et la pratique musicale, comme on sait, était encore plus répandue avant la guerre qu'aujourd'hui dans les familles juives. L'instrument faisait partie de la vie quotidienne et scandait les grands événements, que ce soit les mariages, les enterrements, les naissances. Et donc la musique est vraiment un composant fondamental de la vie quotidienne dans ces foyers.
Alors déjà pour un tableau de maître, c'est très compliqué souvent de retrouver les ayants droit après la guerre et cette spoliation. Pour un instrument de musique, ça doit être extrêmement ardu.
C'est terrible, c'est encore plus compliqué effectivement, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'en occuper et pour faire l'impasse sur cet aspect des spoliations qui a été très important. Il y avait au sein de l'ERR, qui est donc cette organisation qui avait été mise en place pour piller les pays occupés.
Mise en place dès le mois de juillet de 1940.
Voilà, c'est ça. Dès que les Allemands sont arrivés en France, cette ERR s'est installée à Paris et il y avait des sous-divisions, on va dire, dont le commando musique, qui avait eu l'occasion de préparer le terrain bien en amont et en se basant notamment sur un ouvrage qui s'appelle « Le lexicon der Juden in der Musik », en s'appuyant sur ce lexicon, ils avaient vraiment le guide où aller, où se rendre pour trouver les instruments précieux, les ouvrages rares, les partitions, les enregistrements discographiques. Voilà.
Alors le livre de Willem de Vries, il détaille vraiment très minutieusement à la fois les institutions, donc nazis, et puis la manière dont ils ont développé leur activité. Un pillage, alors pour la France, il y a je crois 34 500 appartements qui ont été pillés.
Dans ces 34 000 et quelques appartements pillés, il y avait 8 000 pianos. C'est-à-dire qu'il y avait un piano dans un foyer sur 5 à peu près, à Paris, région parisienne.
Alors ça révèle aussi des personnages peu reluisants qui sont finalement très bien sorti après la guerre. Mmh. On pense notamment à ce Herbert Guéry qui dirigeait ce commando musique. Mmh. Il y a aussi, alors il y a des musicologues, parce qu'en fait ce sont des gens aussi qui vont se pencher sur les partitions, qui connaissent les instruments, qui sont très calés, notamment un Wolfgang Bötticher qui va mourir dans son lit en 2002.
Voilà, et qui est resté attaché dans une université en Allemagne pendant un certain temps. Sans être inquiétés, effectivement. Et ils étaient passionnés, ils étaient très déterminés. Ils avaient eu toute cette période de l'entre-deux-guerres durant laquelle ils s'étaient présentés. On a des fiches dans les bibliothèques en France qui signalent leur présence à la Bibliothèque nationale. Et donc, ils savaient vraiment ce qu'ils venaient chercher.
D'ailleurs, dans la Bibliothèque nationale, il y avait un complice d'origine américaine, Guillaume Devanne,
oui.
Qui avait l'air extrêmement complaisant.
Exactement, qui brillait par son zèle et qui était très très empressé et qui était en relation aussi avec le conservatoire, enfin qui était très très proche du conservatoire et qui était donc l'un des piliers sur lesquels se sont appuyés Bötticher et Guéric.
Alors, ce livre, Commando Musique, il décrit très minutieusement ce pillage. Alors, il y a le pillage des familles juives. Au départ, ils prennent aussi des biens qui ne sont pas aux juifs pour les envoyer en Allemagne, des documents relatifs, par exemple, à Beethoven, Mozart, en disant que c'est d'origine allemande
voilà.
Et qu'il faut les rapatrier en Allemagne.
Et puis, donc, ils prennent tout ce qui a trait à la culture allemande. Donc, c'est ce qu'ils viennent chercher dans les bibliothèques. Ils s'intéressent donc aux instruments de musique et aux partitions. Les plus beaux sont destinés à la haute école de musique qui devait s'installer à Leipzig. Et puis, ce projet n'a jamais abouti, mais ils étaient destinés à cette haute école. Et puis... au niveau en dessous, quand les instruments étaient un peu moins bien, les prises un peu moins intéressantes, c'était pour les officiels du régime. Et puis, quand c'était un peu moins, encore moins intéressant, c'était envoyé et destiné aux foyers allemands et aux soldats qui allaient s'installer sur le front de l'Est pour combattre et donc pour équiper les appartements et les foyers de ces soldats.
Alors, ce qui est terrible, c'est bon, cette bande de criminels qui sont aussi finalement une bande de gangsters, puisqu'ils pillent allègrement. Et puis, il y a des anecdotes assez folles. Par exemple, ce Wolfgang Bötticher, qui est un spécialiste de Schumann, il va reprendre la correspondance de Schumann, notamment avec Mendelssohn, et va réécrire. Parce que, comme il y a une amitié entre les deux compositeurs, Schumann, qui n'est bien sûr pas juif, est une icône de la musique allemande, et Mendelssohn, d'origine juive, lui va être banni. Donc, il réécrit
l'histoire.
Pour faire de Mendelssohn un jaloux de Schumann. Ce travail de restitution des instruments spoliés, il a commencé dès le lendemain de la guerre ?
Absolument, il a commencé dès le lendemain de la guerre. On s'est aperçu, par exemple, que dans les réserves au sous-sol du palais de Tokyo, au moment de la défaite, il restait encore 2000 pianos en attente de restitution. Et donc, il y a eu des petites annonces qui sont parues dans les journaux en disant « Venez voir les pianos et essayer d'identifier les vôtres et apporter les documents nécessaires pour justifier. »
Et donc le nombre d'instruments finalement qui a été restitué après la guerre, le nombre de pianos qui a pu être récupéré.
Alors c'est difficile, je crois qu'effectivement on a retrouvé, il y a eu 8000 pianos spoliés. On en a, je pense, localisé à peu près la moitié, 4000 dans les réserves, etc. Et alors, les pianos qui sont restés en rade, par exemple, ont été prêtés. Et puis après, ironie du sort, après avoir été prêtés à des familles qui en avaient besoin pour travailler, des musiciens, etc., au bout de 2 ans, on a dit aux gens, voilà, on vous les a prêtés pendant 2 ans, maintenant, si vous voulez continuer de les garder, il faut les racheter. Donc les gens qui s'étaient retrouvés avec des pianos volés, ont été contraints de racheter des pianos à l'État.
Alors, ce livre absolument passionnant, Willem de Vries, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Pascal Bernay ?
Alors, Willem de Vries, c'est donc un musicologue hollandais qui a écrit cet ouvrage et qui, au-delà de ça, enfin, il a vraiment consacré une grande partie de sa vie à faire ce travail. C'est par ailleurs un spécialiste de Darius Milhaud. Il a dépassé, je dirais, sa fonction de musicologue, puisqu'au cours de ses investigations, il a retrouvé des partitions et de la correspondance.
Enfin, Darius Milhaud, en plus, qui a pu gagner les États-Unis
Oui.
pendant la guerre, quand il est revenu, son appartement était entièrement pillé, tout avait été
Exactement.
dévasté. Wilhelm De Vries a retrouvé quelques documents. Il a retrouvé aussi des partitions, je crois, des manuscrits qui appartenaient à Arthur Rubinstein.
C'est ça qu'il a pu restituer à la famille. Et puis, il a étudié de manière très approfondie le cas de la collection d'instruments de Wandelandowska.
Alors vous-même, vous avez complété un peu cette étude sur Wandelandowska. Juste un mot
Oui.
pour ceux qui ne connaissent pas forcément
Alors,
Wandelandowska, c'était une grande figure du clavecin.
une grande figure du clavecin, une grande star. Elle vivait en France au moment où la guerre a éclaté. Elle était juive d'origine polonaise, mais elle était française au moment où le conflit éclate, avec un passeport français. Elle avait débuté sa carrière en Allemagne, et c'était notamment pour elle que, à Berlin, au moment où la Première Guerre mondiale éclate, on avait ouvert la première classe de musique de clavecin au Conservatoire de Berlin. Et donc, dès que les Allemands sont arrivés en France, l'un des premiers objectifs, c'était de se rendre chez Wandelandowska à Saint-Leu-la-Forêt, où elle avait construit un auditorium dans lequel, vers lequel convergeaient des étudiants du monde entier, des spécialistes, pour découvrir des répertoires de musique ancienne.
Donc tout ça va être pillé
Tout
à
ça.
partir du 20 septembre 1940, donc
Ouais.
dès le début, comme vous le dites. Et puis elle a pu se
Tout
réfugier.
ça est pillé. Au dernier moment, elle part dans le sud de la France.
Donc là, on parle d'une grande figure, Wandelandowska, de Darius Milhaud, un musicien très connu, un grand compositeur, des gens d'une très grande notoriété. Mais quand vous vous occupez de cette association sur la spoliation, il y a aussi toutes ces familles, justement, pauvres, qui n'avaient
Bien
pour seul
sûr.
bien qu'un instrument de musique. Mais alors, autant, bon, déjà, c'est très compliqué de retrouver des instruments. Le piano de Chopin, d'ailleurs, il a été retrouvé, puis après, on l'a perdu de vue. Autant pour des instruments comme ça aussi marqués, déjà, le travail est difficile. Mais comment vous faites, au sein de votre association, Musique et Spoliation, il y a des gens qui viennent vous voir? Comment ça se passe, ce travail d'investigation?
Alors, on a travaillé en collaboration avec la CIVS, la Commission d'indemnisation pour les victimes des spoliations, qui nous a permis de rouvrir les dossiers qu'ils avaient reçus, dans lesquels figuraient des instruments de musique. Donc, on a pu retravailler sur ces données, et quand il y avait des précisions qui permettaient d'envisager peut-être de reprendre des recherches, par le biais de la CIVS, on a pu se mettre en rapport avec les familles pour leur demander si éventuellement elles seraient d'accord pour qu'on reprenne ces recherches et qu'on retrouve qu'on tente de retrouver les instruments. Et c'est vrai que le travail de recherche est extrêmement compliqué, mais je trouve que il est indispensable, parce que moi je crois, je me fais pas tellement d'illusions sur le fait que ce sera très compliqué d'arriver à rendre des instruments. Parce qu'effectivement, il y a cette question de traçabilité, que pour les pianos, il y a des numéros de série, mais pour les violons, il n'y a pas de numéro de série. Ce que nous, on souhaite, c'est mettre un coup de projecteur sur la question de la spoliation des instruments de musique, et de faire ce travail mémoriel important, de rendre l'identité aux instruments, de retracer autant que faire se peut leur trajectoire. Depuis avant-guerre jusqu'à présent, et puis de rendre hommage aux personnes qui ont pu les jouer.
Alors, il y aura un colloque le 31 janvier à Sciences Po autour de justement cette recherche.
Exactement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait donc rouvrir les archives en France et à l'étranger, Et donc, en collaboration avec Sciences Po, nous organisons le 31 janvier prochain une journée d'études. C'est pas un colloque, c'est vraiment une journée d'études et c'est la première consacrée à la spoliation des instruments de musique. Et on est très content parce que on a des contributeurs du monde entier qui vont venir. Il y a une communauté ashkénaze au Mexique qui a fondé une association qui s'appelle Instrumentos de la Esperanza, qui sont absolument formidables et qui vont venir. Il y a une chercheuse polonaise qui travaille sur tout ce qui avait trait à Chopin, à ses partitions, manuscrits, etc., et qui a disparu pendant la guerre en Pologne. Il y a des musicologues allemands, il y a une Italienne qui vient parler de ce qui s'est passé dans l'Italie fasciste. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens, sans compter d'éminentes personnalités françaises, et notamment Caroline Piketty, qui s'est occupée des archives et de la guerre de cette période aux Archives nationales pendant de nombreuses années.
Eh bien, en attendant le 31 janvier, il faut lire absolument ce Commando Musique que vous avez fait éditer chez Buchet-Chastel avec la contribution de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, un livre de Willem de Vries. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci à vous.